Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée mardi 4 mai, notamment par les activités du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Nigeria, au Burkina Faso et au Tchad, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Au cours de ce mois de mai, le Saint-Père nous demande de prier pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers. Le pape a nommé le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin comme son légat pour présider la concélébration eucharistique qui aura lieu le 4 juillet prochain dans la cathédrale de Strasbourg en France, à l'occasion du 1300e anniversaire de la mort de Sainte Odile, patronne de l'Alsace. Un honneur pour l'Église et pour le Saint-Père, c'est par ces mots que les évêques du Kenya ont accueilli la nouvelle selon laquelle le gouvernement a déclaré monument national d'intérêt historique le campus de l'Université de Nairobi, où le pape François avait présidé la messe le 26 novembre 2015 lors de sa 11e visite apostolique internationale qu'il avait conduit également en Ouganda et en République centrafricaine. La décision du gouvernement commente le père Ferdinand Lugonzo, secrétaire général de la conférence épiscopale du Kenya, signifie que la visite du pape François dans le pays reste dans la mémoire des générations actuelles et futures. Nous devons donc revivre ce souvenir en protégeant le site où le pontife a célébré la Sainte Messe, a-t-il ajouté. À Bangassou, dans le diocèse de Tombouray-Ambio, au Soudan du Sud, les chrétiens de l'église paroissiale de Saint-Georges ont célébré la fête du Saint-Patron Saint-Georges pour la première fois depuis la création de la paroisse il y a un an. Toute personne qui fait bien son travail, même s'il s'agit d'un soldat, peut devenir un saint, comme ce fut le cas pour Saint-Georges. C'est ce qu'a exprimé Mgr Iriboro Kusala, évêque du diocèse, qui a présidé la célébration eucharistique avec le personnel du diocèse. Tout travail accompli avec diligence, même dans les moments difficiles, nous rend dignes de confiance. Et c'est Dieu lui-même qui nous récompense. Nous devons toujours travailler et rester fidèles à Dieu afin de devenir la pierre angulaire de la vie de chacun, a insisté Mgr Iriboro en remerciant les paroissiens d'avoir imité le travail acharné de leur saint patron en cette première année marquée par des difficultés aggravées par la COVID-19. Sans aide extérieure, les paroissiens de Saint-Georges ont commencé à poser les briques pour la construction de leur église paroissiale, a-t-il souligné. Nous avons tant de leçons à tirer de la vie de Saint-Georges, qui était un militaire, mais qui est toujours resté fidèle à Dieu. Aujourd'hui, il faut penser à créer des entreprises familiales, des entreprises privées. Cela donnera du travail aux jeunes qui ne penseront plus à traverser la Méditerranée, a déclaré le père Emmanuel Oyinin, secrétaire général de la conférence épiscopale ivoirienne, suggérant aux autorités ivoiriennes une solution possible pour résoudre partiellement le phénomène de l'immigration clandestine. Car, dit-il, si les jeunes ivoiriens se livrent à de telles pratiques, c'est uniquement parce qu'ils fuient le chômage dans leur propre pays. À plusieurs reprises, les évêques ivoiriens, dans leurs différents messages, ont attiré l'attention des autorités sur la nécessité de mieux répartir les richesses du pays et de mettre en place des mécanismes susceptibles de résoudre le problème du chômage national. Le père Oyinin, à l'occasion de la fête du 1er mai, a exhorté les travailleurs chrétiens à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail. Lorsque le Seigneur nous a permis d'avoir des emplois stables, c'est pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Cela nous plaît à nous-mêmes, puis à Dieu. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Le secrétariat exécutif national de l'apostolat de la mer, des migrants et du tourisme s'est ouvert dimanche 2 mai aux élèves marins de la communauté catholique Notre-Dame des Victoires de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. Une rencontre dans le but de les encourager et les inviter à être porteurs et fondateurs de la mission de l'Église. Reportage.
L'apostolat de la mer des migrants du tourisme de Côte d'Ivoire, dont l'objectif de ces missions a eu à échanger dimanche dernier avec les élèves marins de la communauté catholique Notre-Dame des Victoires de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. L'objectif, selon le père Célestin Ikomba, l'aumônier du port d'Abidjan, les encourager et les inviter à être porteurs et fondateurs de la mission de l'Église.
L'Académie de la mer qui est en Côte d'Ivoire étant une école régionale, il y a plusieurs nationalités qui viennent ici, les pays francophones particulièrement. Nous venons parler aux élèves pour que quand ils rentrent dans leur propre port, qu'ils soient aussi porteurs et fondateurs de la mission de l'Église, qui est l'apostolat de la mer, des aumôneries, et collaborer avec les aumôniers qui sont nommés dans leur propre port. Et ceux qui ne sont pas dans les ports, ils peuvent travailler à l'aéroport avec les aumôniers ou bien dans le domaine de la pastorale des migrants.
Durant cette rencontre, le père Ikomba et ses équipes ont longuement échangé avec ses futurs marins sur leur mission, partagé avec eux leurs expériences et l'appel que l'Église leur lance. Forte de 50 membres, la communauté Notre-Dame des Victoires de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan est une communauté dynamique qui vit sa foi en famille, en témoigne la présidente Ditro Sandrine, troisième année de port manutention, qui s'est d'ailleurs réjouie de cette rencontre.
Aujourd'hui, ils nous ont encore montré qu'ils étaient là pour nous et vraiment, nous sommes vraiment très reconnaissants. Notre foi est assez maintenue parce que nous sommes des jeunes et c'est pas évident d'avoir des communautés chrétiennes au sein des écoles. Et si nous avons eu la grâce d'avoir une communauté SAP, ça nous permet de pouvoir rester attachés à Christ et de pouvoir aussi cultiver l'esprit de famille.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Notre correspondant local en République démocratique du Congo nous rend compte du cri d'alarme lancé par l'évêque de Boudjala, Mgr Philibert Tembo.
L'évêque de Boudjala, Mgr Philibert Tembo, a lancé récemment un cri d'alarme face à l'insécurité grandissante dans la province du Sud Ubangi et en particulier dans le territoire de Boudjala. Après une analyse approfondie de la situation sécuritaire par la commission diocésaine Justice et Paix, l'évêque de Boudjala s'est adressé au gouverneur et à toutes les autorités civiles et militaires de la province.
Nous en appelons à la conscience des gouvernants de cette province. Nous en appelons à la conscience des hautes autorités de la police et de l'armée nationale au regard de plusieurs incidents graves déjà enregistrés dans notre cher diocèse, dont deux prêtres diocésains de Boudjala grièvement blessés par des balles réelles. Ces autorités ont le devoir de nous protéger et de nous sécuriser.
Mgr Philibert Tembo avait à l'esprit notamment le cas récent du directeur d'une école catholique, Justin Epoko, assassiné le 28 avril sur la route de Guémena. L'évêque pensait aussi au cas de M. l'abbé Alphonse Trésor Mangbenza, curé de la paroisse Saint-Égide de Ndagué. Il est aux soins à l'hôpital après avoir été grièvement blessé par des bandits armés qui s'étaient introduits de nuit dans le presbytère pour voler de l'argent. Un autre prêtre, M. l'abbé Gustave Dembi, avait subi au mois de mars dernier un sort semblable dans sa paroisse de Takaya. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Traversons sur l'autre rive du Congo pour rejoindre notre correspondant à Brazzaville où le 2 mai dernier, une association des sourds nommée Mouvement apostolique des sourds du Congo a vu le jour.
Le Mouvement apostolique des sourds du Congo est une association ecclésiale nationale des laïcs fidèles volontaires au service des sourds dans l'Église et avec l'Église à visée pastorale, spirituelle, sociale, éducative et humanitaire. Elle regroupe à son sein des entendants et malentendants. Cette association est représentée par un bureau de 9 membres et 7 conseillers dont l'abbé Chéré Gislain Banzikila, malentendant de son état, est le président fondateur. L'abbé Chéré nous fixe les objectifs de son association.
Le MAS veut collaborer avec les évêques du Congo pour promouvoir la pastorale des sourds partout dans tous les diocèses, devant des centaines et des milliers d'enfants et jeunes sourds. Au Congo, le MAS se veut être une organisation à caractère informatif et communicateur d'espérance aux familles, au public et à l'Église. Nous croyons que nombre pouvant témoigner la charité à travers cette association.
En effet, sous l'impulsion de l'abbé Chéri qui a vécu l'expérience de l'émancipation de cette couche sociale des sourds aux États-Unis d'Amérique où il a fait son cursus sacerdotal et pastoral, une plateforme s'est avérée nécessaire pour s'arrimer au développement mondial qui semble être un village planétaire d'où les sourds du Congo méritent d'être accompagnés pour le bien-être social et éducatif. Le mouvement apostolique des sourds du Congo est créé le 21 juillet 2020. Sévéra Moussavo, Brazzaville pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins une trentaine de civils ont été tués lundi dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso, l'une des plus meurtrières commises par des djihadistes présumés dans ce pays depuis 2015, une semaine après l'exécution de 3 Européens dans la même région. Un important nombre d'individus armés ont attaqué le village de Kodiel dans la commune de Futuri, faisant plusieurs dizaines de morts parmi les populations civiles, a indiqué une source sécuritaire régionale. Un responsable des volontaires de la défense de la patrie des supplétifs civils engagés dans la lutte anti-jihadiste aux côtés des forces de défense et de sécurité a confirmé l'attaque parlant d'un bilan très lourd, au minimum 20 à 30 morts. L'armée nigériane a exprimé lundi son soutien au président Muhammadu Buhari, critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays, balayant catégoriquement toute probabilité d'un coup d'État. Le Nigeria est en proie à de multiples conflits entre une insurrection djihadiste dans le nord-est, des attaques de bandes criminelles qui pratiquent des enlèvements de masse dans le nord-ouest et celles des séparatistes qui visent les forces de sécurité dans le sud-est. Les forces armées nigériennes ont déclaré lundi soir qu'elles allaient continuer à soutenir le gouvernement malgré la mauvaise situation sécuritaire et les critiques soutenues à l'encontre de M. Buhari. Lundi dernier, ce sont 17 villageois qui ont été tués par des bergers peuls présumés au cours de deux attaques séparées dans l'état de Benue, dans le centre du Nigeria, selon des responsables locaux. Ces villageois tués par ces bergers étaient principalement des agriculteurs. Ils ont été tués lors d'une attaque menée à l'aube lundi et deux autres villageois ont été tués dimanche dans la région de Gouer Ouest, dans l'état de Benue, ont indiqué lundi soir des responsables locaux. Le ministère algérien de l'Intérieur a annoncé lundi suspendre et poursuivre en justice 230 pompiers ayant manifesté la veille à Alger pour l'amélioration de leurs conditions de travail et salariales dans un climat social dégradé. Cette décision est susceptible d'attiser les tensions sociales qui ne cessent de s'accumuler depuis plusieurs semaines en Algérie. Ces 230 agents de la protection civile sont suspendus dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, ils seront poursuivis en justice pour avoir enfreint la loi, a indiqué le ministère algérien de l'Intérieur. Ils sont accusés d'avoir enfreint le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps spécifique de la protection civile. Les sapeurs-pompiers comme les policiers n'ont pas le droit de grève ni celui de manifester. Le ministère de l'Intérieur dénonce une trahison des devoirs et responsabilités dans le but de déstabiliser et de discréditer ce corps de métier.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
L'Égypte a confirmé dans la nuit de lundi à mardi avoir signé avec la France un contrat pour l'achat de 30 avions de combat Rafale de la société Dassault pour un montant de près de 4 milliards d'euros en s'endettant sur une dizaine d'années. La commande de 30 avions de combat Rafale par le Caire renforce encore le partenariat stratégique et militaire entre la France et l'Égypte, a salué mardi le ministère français des armées. Ce contrat illustre le caractère stratégique du partenariat que la France entretient avec l'Égypte, alors que nos deux pays sont engagés résolument dans la lutte contre le terrorisme et œuvrent à la stabilité dans leur environnement régional, affirme le ministère français des armées. Direction République du Congo, le directeur d'un hebdomadaire satirique arrêté début février a été condamné lundi à 6 mois d'emprisonnement ferme et a payé une lourde amende selon une ONG. Raymond Malonga, âgé de 60 ans, a été jugé devant la chambre correctionnelle du tribunal de Brazzaville qu'il a reconnu coupable de diffamation, l'a condamné à 6 mois de prison et a payé une amende de 30 millions de francs CFA, soit plus de 45 000 euros, a déclaré Trésor Nzila de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. La France a salué lundi la formation par la junte au pouvoir au Tchad d'un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre civil et incluant plusieurs membres de l'opposition 2 semaines après la mort du président Idriss Déby Itno. La France réitère également l'importance que la transition soit d'une durée limitée et se déroule dans des conditions pacifiques pour permettre le retour rapide à des institutions démocratiquement élues, insiste-t-elle en exprimant son soutien aux initiatives de l'Union africaine visant à accompagner le Tchad à cette fin.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur la justice et la paix avec Donatien Niembo.
Notre magazine sur la justice et la paix nous conduit en Éthiopie. Une délégation conduite par le secrétaire général de la Conférence épiscopale d'Éthiopie, Abate Shome Fikre, s'est récemment rendue dans la zone de conflit du Nord Shoa, l'une des zones administratives divisées de l'État régional du Nord d'Amara. Des affrontements intercommunautaires se sont produits dans 5 parties de la région et ont entraîné la mort de centaines de personnes, des blessés, des ravages et plus de 250 000 personnes déplacées. Des personnes déplacées à l'intérieur du pays ont trouvé refuge à Debre, Berane et dans d'autres zones voisines avec le soutien du gouvernement, de la société civile, de leurs proches et des membres de leur famille. Le soutien de la communauté locale, des services d'urgence du gouvernement et de la Croix-Rouge éthiopienne et internationale ont contribué à atténuer partiellement la crise. En arrivant dans la capitale d'Ebre Berane, les délégués ont assuré que l'Église catholique continuera à travailler pour la paix dans la région, prier pour la paix et pour le confort des familles des victimes. L'Église a déclaré qu'elle était prête à collaborer avec d'autres religions et communautés et à contribuer à la réhabilitation immédiate des personnes touchées. L'Église s'est également engagée à restaurer la paix, la stabilité et la restauration d'une culture de coexistence dans la communauté. Au cours de la réunion, les moyens par lesquels l'Église catholique peut apporter son soutien dans la région, les moyens d'atteindre les victimes et de comprendre leur situation ont été discutés en détail. Outre la nourriture, les médicaments, les fournitures médicales, les ustensiles de cuisine, les cuisinières, il y a un besoin urgent de soutien, en particulier pour les enfants et les femmes. Cette initiative a été lancée par le président de la conférence épiscopale, le cardinal Berane Yesus Sourafiel. Le père Abate Shome Fikre était accompagné notamment des fonctionnaires de l'archidiocèse d'Addis Abeba, le père cistercien et des représentants du Catholic Relief Service. La délégation a également recommandé au gouvernement de travailler dur pour assurer une paix et une sécurité durable dans la région et a souligné que l'Église catholique était également prête à jouer son rôle dans le processus de consolidation de la paix. Au mois de mars, une délégation de l'épiscopat éthiopien s'était rendue en visite chez la population déplacée à l'intérieur du pays dans l'éparchie des Bahirs d'Ardessi, l'une des 13 juridictions ecclésiastiques relevant de l'Église catholique locale. Le but de cette visite était d'offrir solidarité, encouragement et soutien aux personnes touchées par les conflits récurrents dans la région de Metekel, Chaniwo-Reda et les environs de l'éparchie. L'Église continuera à soutenir et à aider les personnes affectées par le conflit et collaborera avec l'éparchie pour réhabiliter les déplacés, avait déclaré l'évêque d'Eminentiana, Mgr François Hume, s'adressant aux personnes présentes. Les responsables gouvernementaux, pour leur part, ont remercié l'Église catholique pour son soutien passé et présent et l'ont exhorté à continuer de soutenir et de répondre à la crise actuelle. Au cours de la visite, il y a eu des rencontres avec le clergé, les consacrés et les fidèles qui vivent à Bahir Dar, Metekel, Chani et Jigel Beles, qui ont présenté des expériences personnelles et les défis causés par les conflits. Des représentants de l'administration gouvernementale et d'autres opérateurs de la région de Metekel étaient également présents. La délégation conduite par Abun Lissan Christos Mateos Semahoun, vicaire apostolique de Hosanna, était composée du nonce apostolique Antoine Kamilleri, du secrétaire de la conférence épiscopale éthiopienne Abba Techom Fikré, des représentants du secrétariat général de la même conférence des évêques, de la conférence des supérieurs religieux majeurs, et le Conseil national des laïcs de l'Église catholique éthiopienne. Monseigneur Lisanou Christos, évêque de l'éparchie des Bahir d'Ardessi, et le vicaire général Abba Sitanyehu Gelao ont accueilli et accompagné la délégation pendant toute la visite à l'éparchie.
Camille Moukosso présente la rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux.
Commençons notre rubrique sur l'écuménisme et les dialogues interreligieux par l'île Maurice, où les membres du Conseil des religions de ces pays se sont engagés à continuer d'étendre la main au peuple des dieux qui a été affecté par les verrouillages de la pandémie du nouveau coronavirus. Dans leur déclaration à la suite de la réouverture du pays le samedi 1er mai dernier, les chefs religieux notent que la nation insulaire a subi une grande dévastation, entraînant de nombreuses souffrances parmi la population en raison des restrictions de la pandémie de la COVID-19. Selon eux, la réouverture annoncée du pays est l'occasion pour la population de réfléchir à la situation du pays et de s'assurer que le pays ne se renferme pas à nouveau. Dans leur déclaration, les chefs religieux affirment qu'ayant tiré les leçons de l'expérience passée de la propagation de la pandémie, du confinement et des écarts sociaux qui se sont manifestés parmi la population, le Conseil des religieux conservera sa responsabilité de pousser les autorités à en faire en sorte que la population bénéficie des services de santé et de l'amortissement économique dont elle a besoin. Les autorités publiques, selon la direction de l'organisme religieux de l'île Maurice, devraient s'occuper des personnes infectées par les virus et celles qui sont en quarantaine afin de s'assurer qu'elles bénéficient des bons offices. En Bolivie, Mgr Oscar Aparicio, archevêque de Cochabamba et vice-président de la Conférence épiscopale de Bolivie, a réitéré le lundi dernier l'appel de l'Église à la réconciliation entre les frères et sœurs boliviens, de toute confession ou obédience religieuse confondue. Mgr Aparicio a rappelé l'appel de l'Église à tous les disciples missionnaires pour construire une patrie de la réconciliation, de l'amour et du pardon, et aujourd'hui plus que jamais, l'appel fondamental à s'y réconcilier, à s'y regarder en face ainsi qu'à être capable de s'aimer, de s'aider et de se pardonner en une époque où la population est de plus en plus en défense face à la pandémie, au manque de travail et à la pauvreté croissante. Nous savons, a-t-il dit, que l'une des plus grandes douleurs a été celle de la pandémie, mais à cette angoisse s'est ajoutée une polarisation politique croissante qui a provoqué des divisions et une instabilité sociale et a érodé nos énergies dans les affrontements qui paralysent la construction d'un projet commun plein d'espoir pour le pays. Il est vrai, a-t-il expliqué, que nous sommes très différents, mais cette diversité culturelle ne peut pas être une raison des confrontations, mais plutôt une force et une plateforme pour aller de l'avant, pour aller vers l'unité et trouver des solutions consensuelles aux problèmes communs. À l'occasion de la Semaine mondiale de la vaccination, une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le Conseil œcuménique des Églises intensifie son soutien en désignant 10 membres influents de sa communauté de foi pour rejoindre les 300 champions de la vaccination que l'UNICEF mobilise pour la vaccination dans le monde. L'objectif est d'exercer son influence par les biais des blogs sur les médias sociaux et d'autres canaux afin de sensibiliser au rôle essentiel que joue la vaccination pour sauver des vies. Le secrétaire général par intérim du Conseil œcuménique des Églises, le père Yaon Saoussa, encourage les chefs religieux dans tous les contextes à apporter leur caution morale au programme de vaccination. Le thème de la semaine de vaccination « Les vaccins nous rapprochent » fait partie de la priorité stratégique plus large de l'UNICEF en matière de vaccination pour la période 2021-2025. Il s'agit de veiller à ce que les enfants du monde entier reçoivent les vaccins des routines appropriées, mais aussi d'informer les gens spécifiquement sur les vaccins contre la COVID-19. Arrêtons le massacre des civils innocents au Myanmar, tel est le titre de la campagne d'action mondiale promue par les continents asiatiques, dont font partie la famille franciscaine et la commission justice et paix des frères mineurs en Corée, le centre de recherche pour la promotion et la solidarité en Corée, la compagnie de Jésus, l'action bouddhiste des Corées pour le Myanmar, la coalition bouddhiste d'Asie pour la démocratie et la justice. Le réseau interreligieux a envoyé une pétition et un appel urgent au Conseil de sécurité des Nations Unies à ses membres, en particulier les États-Unis et la Chine, pour demander une intervention sérieuse et immédiate dans la crise au Myanmar, afin de mettre un terme au massacre des civils non armés qui a eu lieu dans le pays et à la violation manifeste et continue des droits humains fondamentaux par l'armée. Cette pétition demande de toute urgence aux États-Unis et à la Chine, les deux pays les plus puissants, de prendre des mesures appropriées pour arrêter les massacres perpétrés par la junte militaire au Myanmar, peut-on lire dans les textes de la pétition.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.